الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بالاتباع ونهانا عن الابتداع وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو المنفرد بالخلق والإبداع وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق وأمر أن يتبع ويطاع صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وجميع الأتباع وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أخوتي في الله، ما زلنا مع قراءة ما يتيسر لنا من شرح الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، مع شرح فضيلة الشيخ دكتور محمد بن سعيد رسلان حفظه الله تعالى. وقد وقفنا في درسنا الماضي عند باب يبر والديه ما لم يكن معصية، يبر والديه ما لم يكن معصية. نعم. Donc on s'est arrêté la fois dernière sur le chapitre intitulé « La personne est bienfaisante envers ses deux parents ou obéit à ses deux parents à condition que ce ne soit pas un péché ou une désobéissance au Créateur subhanahu wa ta'ala ». Avant que l'on continue, bismillah, on avait dit que par rapport à Ramla, donc dans le hadith, il a été mentionné la ville de Ramla, qui est donc une des villes se trouvant dans la région du Sham. Vous voyez, puis la région de la Palestine, Philistine. Et on avait dit que, moi j'avais confondu avec cette ville qui est Ramla et Ramallah. Ramallah, qui se trouve aussi en Palestine, Philistine. Donc c'est un frère qui m'a envoyé un message. Je ne sais pas c'est qui le frère. Est-ce qu'il est là, le frère que vous m'avez envoyé? Hein? J'ai son numéro à Farid. Voilà. Donc c'est un numéro inconnu que je ne connais pas. Donc c'est un frère sûrement qui était présent la semaine dernière. Et en fait, il m'a fait comprendre que c'est deux villes distinctes. On a Ramallah, qui est en Palestine, et qui est tenue par les musulmans, alhamdoulilah. Et on a Ramla, qui se trouve aussi, mais aujourd'hui elle est gouvernée par Al-Yahoud, par Israël, le pays dénommé Israël, alayhi salam. D'accord? Mais elles sont proches l'une de l'autre, ces deux villes-là. Al-Muhim, le hadith ici, il est question de Ramla, et pas Ramallah. D'accord? Donc on a Ramallah, qui est tenu par les musulmans, etc., qui se trouve dans la région de Cisjordanie, en Palestine, et qui est donc le on avait dit, la capitale administrative de la Philistine. Et on a Ramla. Ramla. Voyez. Naim, ikhra inshallah le hadith.
18.
Naim.
حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الملك بن الخطاب بن عبيد الله بن أبي بكرة البصري لقيته بالرملة قال حدثني راشد أبو محمد عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع: لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت أو حرقت، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة، ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر، وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت، ولا تفرر من الزحف وإن هلكت وفر أصحابك، وأنفق من طولك على أهلك، ولا ترفع عصاك على أهلك، وأخفهم في الله عز وجل،
ولا ترفع
عصاك عن أهلك،
عن أهلك،
وأخفهم في الله عز وجل.
وسبحان الله، هناك رواية أخرى فيها ولا ترفع عصاك على أهلك كما قرأت في الأولى. طيب، والروايتان صحيحتان الحمد لله. لكن المعنى يختلف، المعنى يختلف وسنرى إن شاء الله تعالى.
خيونس شي باسي جا بي جي اوبلي ان فيت تي ريغاردي سو
طيب سمو جا بي
نعم اسلام تشبدينا ولا حديث تبلا
سورة أم دردا أبو دردا أجي المساجي الله صلى الله عليه وسلم ما ركمان دان نفشوز نسوسي رين على الله même si on doit te couper ou te brûler ne délaisse pas volontairement la prière obligatoire car celui qui la délaisse volontairement ne bénéficie plus de protection ne bois pas de vin car c'est la clé de tous les maux obéis à tes parents et même s'ils t'ordonnent de leur donner tout ce que tu possèdes alors donne-leur ne querelle pas les détenteurs de l'autorité même si tu considères que tu pourrais y être apte ne fuis pas lors de la rencontre avec l'ennemi même si tu cours à ton péril ou que tes compagnons fuient dépense de ton surplus pour ta famille ne brandis pas le bâton contre ta famille plutôt fais leur craindre Allah.
نعم أحسنت بارك الله فيك. طيب يقول صلى الله عليه وسلم ولا تفرر من الزحف ولا تفرر من الزحف أي عند اللقاء عند اللقاء لا تفرر أي من لقاء العدو من الجهاد في سبيل الله وإن هلكت وعليك السلام ورحمة الله وإن هلكت وفر أصحابك إن هلكت وفر أصحابك سبحان الله إذ الفرار من الزحف كبيرة من كبائر الذنوب لأن الله تبارك وتعالى نهى عن ذلك فالواجب الثبات كما قال الله عز وجل موسيا المؤمنين يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون أو كان عدد الكفار يزيد على اثنين منهم لواحد من المسلمين فإنه يجوز الفرار لذلك حينئذ يجوز الفرار لذلك وما كان سوى ذلك فمن فر فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب بل الواجب الثبات وصدق العزيمة ورغبة في الشهادة أو النصر والغنيمة لأن المؤمن يقاتل لإعلاء كلمة الله ودحض كلمات الباطل بجميع صوره. Puis dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne déserte pas face à l'ennemi. Ne déserte pas, ne t'enfuis pas face à l'ennemi. Donc là on parle de celui qui est sur le champ de bataille, d'accord ? En temps de guerre. Donc lorsque al-muslim, donc le militaire, le soldat musulman rencontre l'ennemi, il n'a pas le droit de déserter. Il n'a pas le droit de déserter. Même si cela va le mener à sa mort, et même si ses compagnons ont fui, même si ses collègues ont fui le champ de bataille et qu'il reste tout seul, ou qu'il reste lui, Yanni, sur le champ de bataille, eh bien, il ne peut pas fuir. Et cela fait partie des péchés majeurs. Car Allah tabarak wa ta'ala l'a interdit. Et donc il est obligatoire à cette personne-là de rester ferme comme Allah tabarak wa ta'ala l'a ordonné aux croyants en disant dans le sens rapproché « Ô vous qui avez cru, lorsque vous rencontrez un groupe parmi l'ennemi, eh bien, restez ferme et évoquez Allah tabarak wa ta'ala abondamment, ainsi réussirez-vous. Ou Et ou alors, si en revanche, le nombre des kuffars contre qui ils sont en train de faire la guerre, يزيد على اثنين منهم لواحد من المسلمين. Eh bien, sont trois fois plus nombreux, on va dire. Sont trois fois plus nombreux que les musulmans. Vous voyez ? Vous avez compris ?
Ils sont plus que le double.
Plus que le double. Donc, pardon, plus que le double. Non. Donc ça peut être trois, c'est ça ? À partir de trois, en fait.
Deux et demi.
Hein ? C'est ça ?
C'est pas le double.
Non, parce que là, il dit Yazid ala thnayn. Tu vois, Yazid ala thnayn. Donc on comprend plus que deux, on comprend. Fahimt ou pas? Yazid ala thnayn. Akthar min thnayn. Li wahid min al-muslimin. Non, Yazid ala thnayn minhum. Li wahid min al-muslimin. Minhum min al-kuffar. Non, 3 pour 1. À partir de 3 pour 1.
Deux, tu restes.
Hein? S'ils sont trois fois plus nombreux, on comprend par là que s'ils sont trois fois plus nombreux, tu peux dans ce cas-là quitter le champ de bataille. D'accord? Donc il sera permis dans ce cas-là de quitter. Mais sinon, c'est lui qui. Non. S'ils ne sont pas trois fois, c'est-à-dire pour un musulman, il y a un ou deux adversaire, il ne pourra pas fuir dans ce cas-là. Il ne fuira pas. S'il fuit, il a commis un kébir. Il est donc obligatoire de rester ferme et d'être déterminé et véridique dans son intention et de désirer la shahada, le martyr, ou la victoire, ou le butin. Car le croyant, lui, si, lorsqu'il se bat, lorsqu'il lutte dans le sentier d'Allah, tabarak wa ta'ala, il le fait pour que la parole d'Allah, jalla wa ala, soit la plus élevée. Et afin également de rendre caduque le mensonge sous toutes ses formes. C'est ça l'intention de Al-Mujahid. فمن أكرمه الله بالشهادة فقد فاز والقتل لا يؤذيه بأي نوع من أنواع السلاح لا يحس به مسلم مجاهد يجالد الكفار إلا كقرصة البعوضة فإن للمجاهد في سبيل الله من الفضائل ما لا يحصى لأنه قتل في سبيل الله ومن الفضائل أنه لا يسأل في قبره بل يكون قبره روضة من رياض الجنة فلهذا لا يجوز الفرار من الزحف اللهم إلا إذا كان العدد كبيرا وأمكن للمؤمنين أن يتزحزح عن الكافرين فلا حرج عليه إذا زاد عن مقابلة الوحيد للاثنين هكذا إذا زاد عن مقابلة الواحد للاثنين فإذا يقابل الواحد من المسلمين اثنين من الكفار فحرم عليه أن يفر إذا كانوا أكثر من ذلك فلا يعتبر فرارا من الزحف أي نعم إذا كانوا أكثر من اثنين لواحد فلا يكون فرارا يكون فرارا ويكون مباحا والله أعلم غير أنه إذا حمي الوطيس في المعركة إذا حمي الوطيس في المعركة ما معنى هذا؟ معنى إذا اشتدت الحرب والتحم الحرب فلا سبيل إلى الفرار من الزحف بل يثخن في أعداء الله إما النصر وإما الشهادة إما النصر إما الشهادة يعني لا يمكن الفرار خلاص Donc, il dit le cheikh, celui qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a fait don et grâce du martyr, il a certes réussi. Il a certes réussi. Il dit le cheikh, yani, quelle que soit l'arme qui a servi pour le tuer ou la blessure qui a causé sa mort, eh bien, cela ne lui portera pas préjudice. Il dit le cheikh, le muslim, le mujahid, dont l'intention, bien sûr, était authentique et sincère pour Allah tabaraka wa ta'ala, aïna'am, il ne ressent aucune douleur. Illa ka qartatil ba'ouda, si ce n'est la piqûre d'un moustique ou du moustique. Hein? Au moment de sa mort, il ne ressentira aucune douleur. Illa, yani, si ce n'est la piqûre d'un un moustique qui te pique, hein? Ça fait mal là. Donc, le mujahid fi sabilillah a des mérites auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala qui sont indénombrables, car il a été tué dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala. Parmi ses mérites, le fait qu'il n'est pas interrogé dans la tombe. Allahu Akbar. La yus'al fi qabr. Il n'est pas interrogé dans la tombe. Et sa tombe sera un des jardins du paradis. C'est pour ça là qu'il n'est pas permis de fuir l'ennemi dans ces conditions-là. Sauf si, bien sûr, était le cheikh, l'exception, lorsque le nombre de l'ennemi est vraiment conséquent, comparé à celui des musulmans. Dans ce cas-là, il sera donc possible aux croyants, ou plutôt lorsque les croyants ont la possibilité de fuir. Parce que des fois, ils sont plus nombreux, mais tu ne peux pas fuir. Même si tu fuis, tu sais qu'ils vont te rattraper, tu ne peux pas fuir, c'est impossible. D'accord ? Mais si tu peux quitter le champ de bataille dans ce moment-là, eh bien, il n'y a pas de mal. À condition, encore une fois, que leur nombre soit minimum de 3 ennemis pour un musulman. 3 ennemis pour un musulman minimum. À partir de là, tu peux, si tu peux, eh bien, tu pourras quitter le champ. Et si tu quittes le champ, ce n'est pas considéré comme étant une fuite. Ce n'est pas une désertion dans ce cas-là. Ce ne sera pas une désertion. Cela sera autorisé, Wallahu A'lam. Donc lorsque la bataille fait rage, au moment où la bataille fait rage, vraiment ils sont en plein dans la bataille, d'accord, et qu'il n'y a aucune possibilité de quitter le champ de bataille, c'est impossible. Ça y est, t'es dans la mêlée, comme on dit. Hein? Et bien dans ce cas-là, la seule chose qui te reste à faire, c'est de rester et d'attendre soit la victoire, soit le martyr. Dans les deux cas, alhamdoulilah. Quelle que soit la victoire ou le martyr, la fin sera bonne pour toi, alhamdoulilah. ثم يقول صلى الله عليه وسلم وأنفق على وأنفق من طولك وأنفق من طولك. الطول يقول هو فضل المال, هو فضل المال الطول, وفي معناه الكسب بقدر الوسع والطاقة على طريق الاقتصاد. طيب. Puis dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi donc les 9 recommandations qu'il a faites ici, il dit et dépense de ce que tu possèdes, de ta richesse. Wa anfiq min tawlik. Donc le tawl ici il dit fadlul mal. Comment ils ont traduit fadlul mal? Le surplus. Le surplus. Alors sahih. On dépense de, c'est-à-dire que en gros, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire d'abord, bien sûr, un firq, ala nafsik awwalan. D'abord, tu dois dépenser ce qui était obligatoire pour toi, afin que tu puisses subvenir à tes besoins à toi d'abord. D'accord ? Et ensuite, ce qui te reste, eh bien, tu devras le dépenser pour certaines personnes. Ou alors, cela peut vouloir désigner également al-kasbu biqadr al-wus. Donc, dépense selon ta capacité financière ou selon ta capacité économique. D'accord, les frères ? Idan hadhihi كذلك من الوصايا القيمة من ذات الأوامر والنواهي أي الإنفاق على الأهل هذا من أوامر الله تبارك وتعالى الإنفاق أولا على نفسك ثم الإنفاق على الأهل إن هذه من النفقات الواجبة المفروضة فكل من تجب عليك نفقتهم كالزوجة والأولاد الذين لا كسب لهم سواك والأبوين وكل قريب وارث كل قريب وارث إذا احتاج إلى النفقة وأنت تقدر طبعا إذا احتاج وأنت تقدر على النفقة وجب عليك وجب عليك أن تنفق عليهم أي نعم حتى يستغنوا عن الناس حتى يستغنوا عن الناس ويكتب الله لك الأجر لا سيما السعي على اليتيم على الأرملة التي تكون من أقاربك ورحمك وقال الشيخ زيد المدخلي رحمه الله قال وإذا فعلت ذلك وانفقت على هؤلاء فأنت بمنزلة المجاهد في سبيل الله وأنت بمنزلة المجاهد في سبيل الله ولعل ذلك من حكمة ذكره بعد ماذا حرمة الفرار من الزحف الله أعلم طيب donc ici il cite l'une des recommandations de Nabi sallallahu alayhi wa sallam donc il fait partie des plus grandes recommandations dans lesquelles il a ordonné certaines choses et interdit certaines choses Le fait de dépenser. Donc d'abord, dépenser, bien sûr, pour toi-même. Et dépenser pour tes proches, ta famille. D'accord ? Cela fait partie des dépenses obligatoires. Parmi les dépenses obligatoires, on a zakat, maintenant, pour celui qui est capable et qui a les moyens. Parmi ces dépenses, le fait de dépenser pour ses proches et sa famille. Donc tous ceux pour qui tu dois dépenser, tels que l'épouse, les enfants, sinon personne d'autre que toi, hein, pour subvenir à leurs besoins, les parents également. Les ulama disent tous ceux qui peuvent hériter de toi, tous les membres de ta famille qui peuvent hériter de toi, s'ils ont besoin, et que bien sûr tu es capable financièrement, de subvenir à leurs besoins, tu es obligé. Tu es obligé de subvenir à leurs besoins. D'accord ? Donc les deux conditions, qu'ils fassent partie de tes proches, deuxièmement, qu'ils soient dans le besoin, et troisièmement, que tu aies les capacités. D'accord ? Surtout concernant yani, les plus faibles, tels que les orphelins ou les veuves, qui font partie de tes proches, bien sûr, ceux-là, ces gens-là seront plus à même à ce que tu dépenses et que tu subviennes à leurs besoins. Il dit le Cheikh Zayd al-Madkhali, rahimahullah, il dit, lorsque tu auras fait cela, lorsque tu auras dépensé cet argent-là pour tes proches, sache que Allah tabarak wa ta'ala, inshallah, t'écrira la récompense de cela. Pourquoi? Parce que tu as obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et en plus, il dit les shaykh, eh bien tu atteindras le degré de al-mujahid fi sabilillah. Parce que cela fait partie des formes, des plus grandes formes de jihad fi sabilillah. Le fait de dépenser et de subvenir aux besoins de ses proches, son épouse, ses enfants, ses parents, hein, et ainsi de suite. Et il se peut, Allahu a'lam, que cela fait partie de la sagesse du fait qu'il ait cité la dépense pour les proches parents juste après l'interdiction de la désertion. On voit le rapport ici un peu par rapport justement à fait que cela est une des formes de lutte dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala. ثم يقول ولا ترفع عصاك عن أهلك لا ترفع عصاك عن أهلك وأيضا صح ولا ترفع عصاك على أهلك المعنيان هكذا يتناقضان المعنيان يتناقضان وكلاهما صحيح وقوله ولا ترفع عصاك عن أهلك المراد به الضرب بحق الضرب بحق دون puis il dit sallallahu alayhi wa sallam ne comment ça traduit l'islam
ne brandis pas le bâton contre ta famille
ne brandis pas le bâton contre ta famille donc là ils ont traduit la deuxième version hein? Ils ont traduit ala alors qu'en arabe ils ont an je crois. Fais voir l'islam. Ah non, ça va, ils ont mis Allah. Donc ils ont traduit la version qu'ils ont. Alhamdulillah. Donc si on traduit la version, La tarfa asaka ala ahlik, non, ça veut dire ça. Ça veut dire ne brandis pas ton bâton ou ne frappe pas ta famille avec ton bâton. D'accord? Mais la deuxième version, c'est le contraire. Wala tarfa asaka an ahlik. C'est-à-dire, comment on pourrait traduire, hein?
Faut toujours qu'il soit...
Ne t'empêche, non, et toujours ton bâton sur toi. Et toujours un bâton sur toi, au cas où. Au cas où. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Les deux versions, elles sont authentiques. Mais elles sont opposées. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il a... une fois il a dit cela, une fois il a dit cela. Inch'Allah ta'ala. Après, bien sûr, je pense qu'il y a de nombreuses paroles sur cela chez les muhaddithin. Al-Muhim, les deux sont authentiques. Donc, dans la première version, ala ahlik, cela voudra dire ne les frappe pas avec ton bâton. Et dans la deuxième, l'inverse, c'est-à-dire ne t'empêche pas de les frapper. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en gros. L'interdiction de les frapper, c'est-à-dire injustement. L'interdiction de les frapper injustement. Ou alors de les frapper en leur faisant mal, en leur causant des préjudices. En leur, je ne sais pas, par exemple, en les faisant saigner ou jusqu'à ce qu'ils aient des bleus ou des blessures. Adallah yajouz. Vous voyez ? Et l'autre version, quand cela est nécessaire, yani, frappe-les, corrige-les, éduque-les, éduque-les avec ton bâton, quand cela est nécessaire, mais toujours avec justice et de la bonne manière. D'ailleurs, donc c'est pas le fait de frapper pour faire mal, c'est le fait de frapper pour éduquer, pas pour faire mal, pas pour blesser. Vous voyez? Wa akhifhum fillah azza wa jal. Ay dhakkirhum billah ta'ala wa rahibhum 'aqibata mukhalafati amrihi wa anzirhum min mukhalafati awamir Allah bin nasiha wa ta'lim wa bil haml 'ala makarim al akhlaq. عليك أن تخيفهم في الله
إذا رأيت من الأسرة من يقصر في الواجبات أو يرتكب المحارم فعليك أن تخيفه وأنت تقدر على ذلك وأن تؤدبه حتى لا يقتحم المعاصي فيهلك أو يقصر في الواجبات فيقع في موجبات العقوبة العاجلة والآجلة إنه لحق على صاحب البيت أن يحمل العصا هذا هو حق له أن يحمل العصا على من قصر أو ارتكب المحارم من أسرته ولكن يكون ضرب التأديب إن حصل يعني عند وجود سبب عند وجود سببه يكون الضرب ضرب التأديب وإلا فحمل العصا ذات التأديب قد تكون تخيف الأسرة فإن لم يحصل بها تأديب إن لم يحصل بها ضرب تحصل ماذا؟ إخافة في الله تبارك وتعالى Donc il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et fais-leur redouter ou fais-leur peur en Allah tabarak wa ta'ala. Fais-leur peur. C'est-à-dire fais-leur le rappel d'Allah jalla wa ala. Rappelle-leur Allah. Et intimide-les. Fais-leur peur de quoi? Du châtiment d'Allah tabarak wa ta'ala. Du fait de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois faire peur à ta famille de ces choses-là. Tu dois bien sûr leur parler du paradis, leur donner de l'espoir, de la rahma d'Allah tabarak wa ta'ala, du pardon d'Allah jalla wa alam. Tu dois aussi, tu n'as pas oublié le fait de leur faire peur, de leur parler de l'enfer, de leur parler des châtiments d'Allah tabarak wa ta'ala. C'est pas que tu leur parles que de la rahma, hein? Allah ghafur rahim, mais tu délaisses tout le côté el khawf. Le musulman, il doit avoir l'espoir, il doit avoir le khawf, la peur, la crainte d'Allah tabarak wa ta'ala, et bien sûr, l'amour. Donc tu dois les avertir du danger, du fait de désobéir aux ordres d'Allah tabarak wa ta'ala. À travers le bon conseil, à travers l'enseignement, à travers l'incitation au noble comportement. Donc tout ça rentre le fait de justement les faire redouter la colère d'Allah, le châtiment d'Allah tabarak wa ta'ala. Donc tu dois leur faire peur pour Allah tabarak wa ta'ala, en Allah jalla wa ala. Donc lorsque tu vois dans ta famille certains membres qui délaissent les obligations, délaissent la prière, délaissent pour les filles le hijab, hein? Ou alors tu les vois faire des choses interdites qu'Allah Jalla wa Ala a interdites. Tu les vois consommer, fumer, boire, écouter de la musique, fréquenter. Tu te dois de leur faire peur. Hein? Tu n'as pas le droit de rester silencieux et de te taire. T'as l'air d'yous. Si tu leur veux du bien, qu'est-ce que tu fais? Tu leur fais le rappel. Tu leur rappelles la mort. Tu leur rappelles Al-Jannah wa Al-Nar. T'as vu? Non. Donc tu dois les éduquer. Tu dois éduquer ta famille afin que ils ne méprisent pas, parce que si tu leur dis rien, il se peut que ils persistent dans leur péché jusqu'à ce qu'ils les méprisent et qu'ils sous-estiment les péchés jusqu'à ce qu'ils soient vraiment perdus. Donc n'attends pas qu'ils soient perdus. Tu dois les ramener avant qu'ils soient perdus. Lorsque tu les vois délaissés des obligations, jusqu'à ce qu'ils soient exposés au châtiment d'Allah tabarak wa ta'ala immédiat ou futur. Donc Sahib al-Bayt, le chef de la maison, du foyer qui est le père à la base, Sahib al-Bayt, voyez, responsabilité que beaucoup, malheureusement, de pères ont oublié. Beaucoup de pères qui laissent la responsabilité de l'ordre, la gérance de la maison à leurs épouses. Et lui, tu le vois, il est effacé. Il a démissionné. Il n'a aucun pouvoir de décision. Si ce n'est bricoler ou la réparer le tuyau, la plomberie et descendre la poubelle. Mais tu le vois, subhanallah, il n'a aucun pouvoir de décision, aucune autorité. Ni sur ses enfants, encore moins sur son épouse. Au contraire, c'est elle qui est autoritaire. Hein? Là, sahib al-bayt, ou l'ab, al-walid. C'est lui, sahib al-bayt. Rabb al-bayt. C'est lui. Donc lui, sahib al-bayt, il a le droit, c'est son droit de porter le bâton ou la canne. Hein? Et lorsqu'il voit un membre de sa famille qui délaisse, qui néglige, qui commet des interdits, eh bien il a le droit de les éduquer avec ce bâton. À condition de, bien sûr, c'est pas pour les blesser ou là, pour leur faire mal, mais pour les éduquer. Vous voyez? Si cela est nécessaire, si cela a été généré par une cause. Mais sinon, rien que le fait qu'il porte ce bâton-là sur lui, pour l'éducation, yani, cela est déjà une forme de ikhafa. Une forme d'intimidation déjà. Quand l'enfant il voit son père avec le bâton ou là, ça lui fait quelque chose déjà, mentalement, psychologiquement. C'est vrai ou pas? Ça rappelle des souvenirs ou là. Ça n'existe plus, ça, aujourd'hui. Qui aujourd'hui? Quel père aujourd'hui on a vu? Masha'Allah. Dakhal. Dakhal le belad al-Assa. Abdullah, il y en a encore. Mazel. Abdullah. Ah. Allez.
La personne qui de père de famille qui, comme tu dis, est passé, il va être quand même être questionné sur le fait de la pas...
Bien sûr. L'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, c'est une obligation, je crois. C'est une obligation. Pourquoi la umma elle est faible? Parce qu'on a délaissé. On a délaissé l'ordonner le bien, interdire le mal. On l'a délaissé complètement. Si déjà le noyau de la société qui est la famille, si le père il délaisse ça, ça y est, il n'y a plus rien. Et les ulama ils disent que celui qui prie la nuit, qui jeûne, qui fait des choses pour lui, qui sont bénéfiques pour lui, mais il n'a pas interdit le blâmable, il n'a pas ordonné le convenable, il est plus détesté auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala que celui qui fait des péchés majeurs. Subhanallah. Vous voyez? Bien sûr, il est responsable. C'est le berger, c'est lui le berger, c'est lui le gardien. Et chaque gardien sera interrogé sur son troupeau. Non. Bon, Moustah. Ça y est? Il donne Amr al-Ri'aya Muhim. Ou al-Rajul Ra'in fi usratihi. لا سيما من كان في سن المراهقة من ذكر أو أنثى فهؤلاء في حاجة وبقيتهم ممن تقدمت بهم السن وبلغ الرشد فلا يسقط باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحث والترغيب حتى يقوم الإنسان بما أوجب الله عليه حيال أسرته وأقاربه ومن أمكن القيام عليهم من جيران وإخوان وأصحاب ومجتمع. Donc, l'affaire ou la responsabilité de, d'être le gardien de sa famille, le protecteur de sa famille, leur berger, c'est une affaire qui est très importante, cruciale. Donc l'homme, lui, c'est le gardien de sa famille, comme le berger est le gardien de son troupeau. Il dit le shaykh, surtout en ce qui concerne ceux qui ont atteint l'âge de al-murahaqa. Donc al-murahaqa, qu'on peut traduire par l'adolescence. Hein, les enfants qui sont devenus pubères. Ils sont devenus pubères, mais ils n'ont pas atteint le degré de rushd. De... Le degré de rushd, comment on pourrait traduire, hein? De sagesse. L'âge de sagesse qui fait que tu peux lui donner de l'argent, il est autonome, il ne va pas gaspiller, il ne va pas faire n'importe quoi avec son argent. D'accord? Mais cet âge-là, entre les deux, là, entre la puberté et l'âge de la sagesse, on appelle sin al-murahaqa. L'adolescence, 12, 13, 14 ans. Vous voyez? Tu le vois, ils sont pubères, ils ont des boutons sur la joue, et ils sont pubères. Mais ils ne sont pas encore responsables, c'est vrai ou pas? Ils ne sont pas autonomes et tout. Ou responsables, bien, vraiment. Religieusement, non, religieusement, ils sont responsables. Hein? Religieusement. Ils prient, ils doivent prier, etc. etc. Mais, on ne peut pas leur confier certaines choses. Ils ne sont pas encore capables. Taïb. Eh bien, eux, garçons ou filles, tu dois encore plus faire attention à eux à cet âge-là. Car ils sont encore très fragiles. Et ils sont très influençables, surtout ici. En plus, c'est l'âge où, normalement, ils sont au collège. Et le collège, c'est là où ça commence à chauffer. Au niveau des hormones et tout. Et tout. Hein? Déjà, la musta'an, ça commence même en primaire déjà. CM2, tu vois des... Certaines filles s'habiller un peu la moustan. Et bien sûr, le reste des membres de la famille qui ont atteint aussi, qui ont atteint l'âge de sagesse, alhamdoulilah, 18, 19, 20 ans, etc. Mais même eux, tu ne dois pas les délaisser. Même eux, tu ne les délaisses pas et tu dois continuer à leur conseiller et leur ordonner le convenable et leur interdire le blâmable, les encourager et leur donner envie jusqu'à ce qu'ils obéissent à Allah tabaraka wa ta'ala et qu'ils remplissent leurs devoirs vis-à-vis de leur famille, vis-à-vis de leurs proches. Et après eux, même ceux qui ne sont pas des membres de ta famille au niveau des liens de sang, mais aussi il y a tes voisins. Tes voisins qui ont un droit sur toi. Donc le voisin qui a le plus de droits sur toi, c'est qui? C'est ton voisin qui est en plus un proche parent et qui est musulman. Lui, c'est le voisin qui a le plus de droits sur toi. Un voisin, proche parent, musulman. Après, tu as le voisin musulman, mais ce n'est pas un proche parent. Lui, il est en dessous. Après, tu as le voisin kafir. Tu as le voisin kafir, qui a un droit sur toi aussi. Qui a un droit aussi sur toi. Et à qui tu dois le bon conseil. Et que tu dois appeler à l'islam. Aïna. Ou alors, bien sûr, les frères, parmi les frères à Allah tabaraka wa ta'ala, les amis et la société de manière générale. Et la société de manière générale. Allahu akbar. Akhim, akhifhum fillah. Qal akhifhum fillah tabarak wa ta'ala. عندما تحمل العصا على من يخاف من العصا تحمل العصا على من يخاف من العصا ويعرف أنك ستؤدبه على مخالفته فهذه إخافة في الله هذه إخافة في الله تبارك وتعالى طيب نقص كل إخافة في الله eh bien parmi ces manières et le fait de porter le bâton, de porter le bâton devant ceux qui craignent le bâton. Pour leur dire, faites attention. Je suis responsable. D'accord ? Je suis responsable. Oh, hakada. Non. Est-ce que c'est clair, les frères ? Voilà. ما يؤخذ من الحديث ما يؤخذ من الحديث اولا الحث على الابتعاد عن الشرك واعتناق التوحيد حتى في الساعات الحرجه والاوقات العصيبه الرهيبه ce que l'on tire du hadith premièrement l'incitation ou l'ordre de s'éloigner du shirk de l'association et également l'ordre d'adhérer totalement au tawhid jusqu'à et ce même dans les moments les plus critiques hein? Comme il a dit dans le hadith qu'est-ce qu'il a dit la tushrik billahi shay'an wa in qutti'at aw hurriqt N'associe pas à Allah tabaraka wa ta'ala même si tu te fais découper ou brûler. Donc ce que l'on tire, l'incitation, l'encouragement à rester ferme sur le tawhid même dans les moments les plus critiques, les plus difficiles, les plus terrifiants, subhanallah. Ça c'est des choses qui ont été vécues avant. Avant, Naam, ça s'est vraiment produit. Les croyants se faisaient découper. Et malgré ça, ils restaient fermes sur Tawhid. Ils restaient fermes. Aujourd'hui, ça existe encore. Dans certains pays. Qu'Allah les aide et les secours. Dans certains pays, ça existe encore. Notamment en Birmanie. Hein? Donc ce n'est pas une chose qui a disparu, ça existe. Et malgré ça, Allah tabarak wa ta'ala nous a permis quand même, nous a permis de dire une parole de kufr, ou de faire un acte de kufr, en cas de contrainte. En cas de contrainte. Vous voyez ? Non.
C'est ça, c'est là que j'avais un peu de... Pourquoi, en fait, en cas de contrainte,
c'est pour ça qu'il dit ici. C'est pour ça qu'il dit ici Al-Hath. Il n'a pas ordonné ici le prophète. Il a dit Al-Hath, Yahuth. Il encourage à rester ferme. Il encourage à rester ferme. Ouais, il m'a dit Al-Tafsir. Fais Al-Tafsir. Les ulama, ils ont détaillé un peu, Shouya, par rapport à ça. Mais la base, alhamdulillah, la base, comme a dit Jalla wa Ala, illa man ukrih wa qalbuhu mutma'in bil iman. Hein? Illa man sharaha bil kufri sadran. Famadha fa ulaika alim ghadab min Allah azza wa jal. Hein? Ah, Yasser. Amar bin Yasser. Amar bin Yasser. Non. Sahih. Donc là, Allah Jalla wa Ala nous a permis, en cas de vraie contrainte, on ne parle pas d'une contrainte, je vais te licencier, ou là. C'est pas une contrainte ça, une vraie contrainte physique, comme il a dit le frère, physique, la mort, etc. D'accord ? Dans ce cas-là, na'am, tu as le droit de prononcer une parole de kufr ou de faire un acte de kufr, tant que ton cœur, bien sûr, il est apaisé par l'iman, la foi. Alors que celui qui se laisse et qui ouvre sa poitrine au kufr, là, bien sûr que lui, là, il a adhéré au kufr totalement. D'accord ? وهكذا. ثانيا الحذر من ترك الصلاة المفروضة ومن سوء العاقبة والمصير لتاركها بغير عذر شرعي. Deuxièmement, la mise en garde contre le délaissement de la prière obligatoire et que cela va engendrer une mauvaise fin et va amener نعم ترك صلاة المفروضة من سوء العاقبة والمصير لتاركها بغير عذر شرعي. Et que celui qui l'a délaissé donc sans excuse valable religieusement, bien sûr, une mauvaise fin l'attend. طيب. ثالثا بيان حرمة الخمر وبيان أضرار الخمر والمفاسد العظيمة التي تؤدي الخمر إليها كما في الحديث الذي ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الصحيحة الخمر أم الفواحش الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر من شربها وقع على أمه وخالته وعمته والعياذ بالله. طيب فالحديث اختلف المحدثون في صحته لكن صححه الألباني رحمه الله تعالى. Donc troisième chose, l'exposé de l'interdiction de l'alcool, الخمر. Donc الخمر c'est tout ce qui enivre. Il y a pas d'alcool précis interdit. Tout ce qui enivre rentre dans le terme al-khamr et donc est interdit. Dans le hadith, donc, il a exposé le mal et le fléau de l'alcool. Il a exposé également les conséquences néfastes de l'alcool. Comme il a dit dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, sur lequel les ulama ils ont divergé sur l'authenticité, il dit al-khamru umm al-fawahish. L'alcool, c'est la source de tout mal. Al-fawahish, donc Allah alam ici, il a le sens de les péchés concernant la fornication, etc. Al-fawahish. Voyez, c'est la source. Hala sahih. Je le vois, yani, tous ceux qui commettent le zina et tout. Il y a de l'alcool dedans. Il y a toujours de l'alcool dedans. Allah musta'an. Wa akbarul kabair. Et le plus grand des kabair. Celui qui boit ou celui qui a bu le khamr, eh bien, il se peut qu'il fasse les rapports avec sa mère, sa tante. Avec sa mère et sa tante. Non. Celui qui boit de l'alcool, il est capable d'avoir des rapports même avec sa mère, même avec sa tante maternelle ou paternelle. Ayadun billah. Aïna. Non, ma vie, ma chambre. Porte.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر
نعم الآية في سورة النحل قال جل وعلا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم رحمك الله. Donc le verset dans la sourate An-Nahl, verset 106. Allah jalla wa ala, de le sens rapproché, il dit: celui qui a mécru en Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contraint alors que son cœur est apaisé de la foi, mais celui qui a ouvert sa poitrine à la mécréance, eh bien ceux-là auront la colère venant d'Allah et un châtiment énorme. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Taïb. وجوب طاعة الوالدين حتى لو صدرت عنهما الأحكام الشديدة والقيد كما مر يشمل الأحاديث في الباب كلها ما لم يكن معصية. Quatrièmement, l'obligation d'obéir aux deux parents, même si les deux parents ont émis des règles strictes, très strictes, hein? Ils ont émis des règles à la maison qui sont durs et stricts, et bien tu dois leur obéir. Mais bien sûr, toujours avec cette restriction, cette condition qui est, condition qui concerne tous les hadiths de ce chapitre-là, qui est tant que cela n'est pas une désobéissance à Allah. Tant que l'ordre qu'ils t'ont donné ou l'interdiction qu'ils t'ont faite ne rentre pas dans la désobéissance à Allah Ta'ala. Al-Dalil, c'est quoi le Dalil? C'est quoi la preuve? Tu vas lire? La ta'ata li makhlouqin fi ma'siyati al-khaliq. Pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, innama ta'atu fi al-ma'ruf. L'obéissance ne se fait que dans al-ma'ruf, le convenable. خامسا وجوب طاعة الإمام وحرمة الخروج عليه ولو كان جائرا. Cinquièmement, l'obligation d'obéir au gouverneur. Au gouverneur, le hakim, l'imam, le dirigeant. Et l'interdiction de sortir contre lui, comme ils sont en train de faire actuellement, fil Jazair, en Algérie. La yajouz. La yajouz. Même si il dit les chers, ou alors qu'un ajaïran, même s'il est injuste, même s'il est injuste, que dire alors de celui qui n'est pas injuste, de celui qui n'est pas injuste, ou de celui qui n'a interdit à personne de prier à la mosquée, de faire l'Eid, de jeûner, subhanallah, au contraire, alors facilite ces choses-là. Vous voyez, que dire alors de cela? اللهم اصلح لهم. سادسا الحظ على الجهاد في سبيل الله وعدم الخوف وحرمة الفرار من لقاء العدو في أحرج الساعات. Sixièmement, l'incitation, l'encouragement à la lutte dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala, et aussi de ne pas avoir peur, عدم الخوف, et l'interdiction de déserter lors de la confrontation avec l'ennemi, même dans les moments les plus critiques. Sabi'an, al-iqtisadu fil nafaqa ala al-awlad wa anfiq min tawlika ala ahlik. Septièmement, le fait de dépenser pour les enfants, mais avec le juste milieu. D'accord ? Al-iqtisad fil nafaqa, c'est-à-dire de ne pas être radin, avare, de ne pas non plus gaspiller. Donc le chef de la maison, le père, lui, il faut qu'il trouve le juste milieu. C'est pas il dépense rien du tout, il les laisse dans le besoin. C'est pas non plus il lâche pour tout et tout ce qu'il demande. Là, toujours il doit faire attention et à dépenser sans tomber dans ni dans l'avarice ni dans le gaspillage. Tayeb. Et non. Pour ça qu'il dit wa anfiq min tawlika ala ahlik. Et dépense selon tes capacités financières pour ta famille. ثامنا عدم الامتناع عن الضرب لتربيتهم وإنذار الأولاد عن المعاصي والمخالفة لأوامر الله جل وعلا. Huitièmement, la personne ne doit pas s'empêcher ou ne doit pas s'interdire de corriger sa famille lorsque besoin en est, afin de les éduquer. Voyez, c'est interdit non en France ou là? Hein? C'est interdit dans le texte?
Il y a un texte de loi qui interdit la fessée.
La fessée officielle, officielle. Ah, c'est inapplicable. C'est pas, ils peuvent pas appliquer ça, c'est impossible. Subhanallah. Subhanallah.
Ça arrive,
voilà. Bon, faut prendre en compte tout ça, les frères. Hein, que ce n'est pas la cause des problèmes. Et le fait d'avertir, donc, d'avertir, d'intimider ses enfants par rapport au péché, par rapport à, au fait de désobéir aux ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala. الحمد لله فنكتفي بهذا إن شاء الله تعالى وسنواصل بعون الله تبارك وتعالى في الدرس المقبل والعلم عند الله جل وعلا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين بارك الله فيكم